VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. L'avion du président français Emmanuel Macron s'est posé dans la base militaire française de Gao, dans le nord du Mali. Le chef de l'État français a été accueilli par son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le premier déplacement hors d'Europe du nouveau président depuis sa prise de fonction dimanche, pour lequel il a choisi Gao, pivot de l'opération française Barkhane contre les djihadistes au Sahel qui mobilise 4000 soldats dans 5 pays. Les Maliens ont un message pour le président français à propos de la force Barkhane.
Moi, je m'appelle Bintou Traoré. Pour moi, la présence de la force Barkhane au Mali, plus précieusement au nord, n'a pas sa raison d'être, quoi. Ils sont venus pour gérer la crise. Jusqu'à présent, rien n'a bougé. La force malienne n'est pas jusqu'à présent au Kidal. Et ils sont venus pour instaurer la paix. Cette paix-là, on est loin, très loin de l'atteindre. La France voit son intérêt. La France ne veut pas que Kidal soit libéré. La France ne veut pas que la force malienne soit à Kidal. Peut-être que ça peut compromettre ce qu'ils visent là-bas.
Alassane Cissé, observateur de la scène, les premières heures de l'occupation des régions d'Ondi du Mali, vraiment l'intervention des forces françaises est à vraiment féliciter. Mais après ça, on a remarqué que vraiment la force Barkhane au niveau du nord, il y a toujours des attaques. Pourtant, ils sont présents sur le terrain. Mais moi, je vois que vraiment, ça n'a pas d'impact sur l'insécurité qui est en train de régner, qui est en train de gangréner au niveau du nord là-bas.
Le président français doit passer environ 6 heures sur place, suivant un programme très chargé. En marge de sa rencontre avec la force française au Mali, Emmanuel Macron aura un entretien avec le président Ibrahim Boubacar Keïta sur la lutte contre le terrorisme, le dossier sahélien, le volet politique du dossier et la difficile mise en œuvre des accords de paix de 2015. Au Niger, des mesures viennent d'entrer en vigueur dans plusieurs zones des régions de Tillabéri et de Tawa dans l'ouest du pays en raison d'infiltrations terroristes venant du Mali voisin. Une quinzaine de marchés ruraux ont été fermés et la circulation de voitures et de motos a été interdite dans ces zones. Ces mesures, pourtant salutaires pour la sécurité, ont un revers, selon Moussa Aksa, directeur de publication du journal L'Événement.
Le Niger actuellement traverse une crise alimentaire dans beaucoup de régions et le gouvernement n'a pas tenu compte de ces aspects-là quand on appuie ces mesures d'état d'urgence dans ces régions. Oui, elles sont importantes pour la sécurité, mais en amont, quand on prend ces genres de mesures, on informe les populations, il faut les aider, il faut leur apporter du soutien. Comme ça s'est passé par le passé dans la région d'Agadez et aussi à Diffa, il faudrait que le gouvernement, les autorités nigériennes fassent un effort pour appuyer ces populations qui aujourd'hui n'ont plus de marché, les boutiques sont fermées, la circulation est interdite dans ces régions-là, c'est des zones frontalières avec des va-et-vient le long de ces frontières-là, ça permet un échange économique avec certains pays frontaliers. Donc le gouvernement n'a pas pris de mesures idoines à atténuer les souffrances des populations face aux conséquences de cet état d'urgence-là.
Le journaliste nigérien Moussa Aksa. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'un vaccin expérimental contre le virus Ebola pourrait être très rapidement testé dans la zone du nord-est de la République démocratique du Congo, touchée par une épidémie. L'OMS dit attendre le feu vert de Kinshasa. Solange Niamoulissa.
Il n'existe pas pour l'instant de vaccin homologué pour se protéger contre le virus Ebola. Selon l'OMS, il existe un vaccin candidat prometteur dont les stocks pourraient être acheminés en quelques jours en RDC si Kinshasa l'autorise. Dr Peter Salama, directeur du programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS, a déclaré que les préparatifs sont en cours. Il pourrait éventuellement lancer une campagne de vaccination si toutes les conditions sont remplies. Le pays fait face à sa 8e épidémie d'Ebola depuis 1976. La maladie a été détectée dans une zone isolée du Bas-Ouélé. Selon l'OMS, 2 cas ont été confirmés, 18 autres sont suspects et 3 personnes sont mortes. Il s'agit de la première flambée depuis l'épidémie d'Ebola qui avait fait plus de 11 300 morts sur 29 000 cas recensés dans 3 pays en Afrique de l'Ouest.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le président américain Donald Trump commence demain son premier voyage à l'étranger, un périple de 9 jours au Proche-Orient et en Europe. Pour ce qui concerne le Moyen-Orient, c'est une rupture avec l'approche de son prédécesseur, Barack Obama. La première escale est l'Arabie Saoudite, où le président américain va tenter de redynamiser la coalition musulmane sunnite contre l'Iran. Lionel Gaïma.
Durant sa campagne, Donald Trump se plaignait de l'Arabie Saoudite. Il a même été accusé d'islamophobie après ses menaces d'interdire l'entrée aux États-Unis des voyageurs venant de ce pays à majorité musulmane. Maintenant, il a choisi Riyad comme première étape symbolique de son premier voyage à l'étranger. L'Arabie Saoudite abrite les deux lieux les plus saints de l'islam et c'est là-bas où nous allons commencer à bâtir une nouvelle base de coopération et de soutien avec nos alliés musulmans pour combattre l'extrémisme, le terrorisme et la violence. Pour M. Trump, c'est une chance de se défaire de son image anti-musulmane. À Riyad, il va s'adresser à des rois, émirs et présidents de 54 pays musulmans sunnites. Son message, les États-Unis seront à vos côtés contre un pouvoir considéré hostile dans la région, c'est-à-dire l'Iran. Le général McMaster, conseiller à la sécurité nationale.
He will encourage our Arab and Muslim partners.
Nous allons encourager nos partenaires arabes et musulmans à prendre des mesures fortes pour promouvoir la paix et confronter ceux comme le groupe État islamique, Al-Qaïda, l'Iran et le régime de Bachar al-Assad qui perpétuent le chaos et la violence qui ont amené autant de souffrances à travers le monde musulman et au-delà. Les associations de défense des droits de l'homme ont critiqué Donald Trump pour avoir reçu des leaders musulmans autoritaires comme l'Égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le Turc Recep Tayyip Erdogan. C'est une rupture brutale avec l'approche de son prédécesseur Barack Obama qui avait pris ses distances des leaders sunnites à cause des questions des droits de l'homme. Robert Sutloff, directeur exécutif de l'Institut du Proche-Orient à Washington. Quand il a été au Caire, il a fait un grand discours, non pas vers les leaders arabes, mais directement vers les populations du Proche-Orient. Donald Trump a une approche différente. Il va s'adresser aux dirigeants avec qui il peut traiter directement. C'est son choix. Ce que M. Trump va leur dire, c'est justement ce que veulent entendre les leaders sunnites, le Saoudien Ali Shababi, expert à la Fondation arabe à Washington. Il va envoyer un message disant qu'il comprend que les alliés musulmans, les musulmans alliés de l'Amérique, sont la première ligne de défense contre le terrorisme pour empêcher l'Iran d'être belliqueuse et profiter davantage du chaos au Proche-Orient pour faire avancer ses ambitions politiques.
And taking advantage of chaos in the Middle East to further her own political ambitions.
Après Riyad, Donald Trump ira en Israël, puis au Vatican. Il se rendra au sommet de l'OTAN à Bruxelles et au sommet du G7 à Catane, en Sicile, avant de rentrer à Washington.
La Syrie et son allié russe ont vivement condamné aujourd'hui la frappe jeudi de la coalition conduite par les États-Unis contre l'armée syrienne, Damas assurant qu'il ne se laissera pas intimider. Les Iraniens votaient en nombre et dans la bonne humeur ce vendredi à l'élection présidentielle, cruciale pour le sortant modéré Hassan Rouhani, qui brigue un second mandat pour poursuivre sa politique d'ouverture au monde. Monsieur Rouhani affronte Ibrahim Raisi, un religieux conservateur proche du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui se présente comme l'avocat des plus pauvres et veut donner la priorité à l'économie de résistance axée sur la production nationale et les investissements nationaux. Deux petits candidats peu connus, un réformateur ayant appelé à voter Rouhani et un conservateur, sont aussi en lice. Sauf surprise, le vainqueur devrait être élu dès le premier tour, dont les résultats définitifs sont attendus dimanche. Et puis, le parquet suédois a annoncé qu'il abandonnait ses poursuites pour viol contre le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, réfermant à une saga judiciaire qui durait depuis 2010. Cet épilogue est une victoire pour l'Autrichien de 45 ans qui avait toujours nié les accusations portées contre lui en août 2010 par une Suédoise d'une trentaine d'années. Monsieur Assange est réfugié à l'ambassade équatorienne à Londres depuis 2012 dans l'espoir d'échapper à un mandat d'arrêt contre européen lancé par la Suède. Il dénonce une manœuvre pour faire pour le faire extrader vers les États-Unis, où il risque d'être poursuivi pour la publication de documents militaires et diplomatiques confidentiels. Et puis, la nouvelle du jour, c'est que l'avion présidentiel du président français, Emmanuel Macron, s'est posé donc dans la base militaire française de Gao, dans le nord du Mali. Il a été accueilli par le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Jean-Roger Bion à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il sera, Henri Francis sera en votre compagnie. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.